Salut à tous et à toutes, vous écoutez Retour vers le cinéma, votre émission de cinéma préférée sur CFM Radio. Pour les nouveaux, on vous explique le principe de l'émission. On a d'abord la Minute Info qui porte sur les sorties de la semaine, puis le Qu'est-ce que t'as vu, le tour de table où on raconte ce qu'on a vu récemment et parfois on le tacle, parfois on le tacle pas. Après une petite coupure musicale et le sujet du jour où on peut être mené à avoir un petit débat sur un sujet qui touche au cinéma. Nouvelle équipe cette année, Elodie.
Salut.
Vadim.
Bonjour tout le monde.
Et moi-même, Lina. Des élèves de cinéma du lycée Michelet, donc avec 6 heures de spécialité par semaine,
ouais.
Ça charbonne.
Beaucoup.
Vous pourrez nous écouter le mercredi à 19h et le samedi à 14h. En attendant, on passe à la Minute Info de Vadim.
Eh bien, cette semaine, donc la semaine du mercredi 19 novembre, vous pourrez retrouver en salle Running Man. C'est un film de science-fiction, mais aussi de l'action, d'Edgar Wright. On retrouvera donc Glenn Powell, Josh Brolin et William Massey dans un futur proche. The Running Man, c'est un jeu de télé mortel où les runners doivent échapper à des tueurs pendant 30 jours. Ben Richards, prêt à tout pour sauver sa fille, accepte de participer. Mais sa détermination fait de lui un héros du peuple et une menace pour le système. On a aussi Jean Valjean, qui est un drame historique réalisé par Éric Besnard avec Grégory Gadebois, Bernard Campan et Alexandra Lamy. En 1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé et rejeté. Il va errer sans but, mais se trouver un refuge chez un homme d'église et sa famille. Face à leur bonté, il doit choisir qui il veut devenir. C'est quand même un film adapté du roman des Misérables de Victor Hugo, si vous connaissez.
Ah oui, ouais. On n'est pas des incultes.
C'est logique. Et nous retrouvons ensuite Wicked, partie 2. C'est un film fantastique, mais surtout une comédie musicale réalisée par John Chu, avec Ariana Grande, la chanteuse, bien évidemment, Cynthia Erivo et Jonathan Bailey. On va retrouver Elphaba et Glinda, qui ont été séparées par le destin, mais qui doivent alors dépasser leurs différends car une révolte va éclater due à une mystérieuse jeune fille. Tout cela va alors bouleverser Oz.
Nous rappelons aussi que vous pouvez retrouver ces films en salle au CGR Le Paris et CGR Le Multiplex à Aussonne, à Montauban.
Merci Elodie. On va passer maintenant au Qu'est-ce que t'as vu ? Alors Vadim, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien cette semaine, je me suis pas douché du tout parce que je me suis tapé une série, The Haunting of Hill House. Alors l'accent il est très mauvais,
ouais,
et déjà il y a
dire.
Trop de H donc j'ai du mal. Enfin bref, c'est une série d'horreur réalisée par Mike Flanagan. Est-ce que vous connaissez peut-être un film de lui ?
Absolument pas.
Non, pas du tout.
D'accord. Non, alors le grand film qu'il a fait après, c'est la suite de Shining, Doctor Sleep. Peut-être
Sleep.
Que...
Docteur Culotte aussi.
Ah, c'est
faire.
Drôle.
Ouais.
Et il a aussi fait donc une saison 2, The Haunting of Bly Manor, mais ça reste une série anthologique, donc c'est pas la même chose, c'est une intrigue totalement indépendante. Au casting, on va retrouver pas mal de noms, et surtout celui de Victoria Pedretti, qui, je trouve, a une performance assez impressionnante dans le film. C'est très touchant, mais aussi, et c'était pour les nostalgiques, on retrouve Henri Thomas, qui est le petit enfant dans le film E.T. l'extraterrestre.
Ah.
Alors, c'est une série qui est sur Netflix, elle est sortie en 2018 et elle va raconter l'histoire d'une famille marquée à vie par la maison hantée où elle a grandi. C'est un lieu qui continue de les hanter des années plus tard, autant dans leurs souvenirs que dans la réalité. Et ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'est la façon dont la série installe la peur. Pas besoin de sang ni de gros sursauts. Tout repose sur ce que l'on ne voit pas. Flanagan joue avec notre imagination, il va laisser des zones d'ombre, et c'est là que je trouve que le malaise arrive à bien s'installer. Les fantômes, ils sont très originaux, et ils ont une certaine caricature, mais elle est maîtrisée. Et donc, il va pouvoir reprendre les codes classiques du genre, mais renouveler avec style. La bande originale aussi de la série, selon moi, elle est tout simplement magnifique. Et la série, elle fonctionne beaucoup plus comme un thriller psychologique que comme un pur film d'horreur. J'ai été pris vraiment à la gorge par son mystère et aussi ce ton très réaliste dans les réactions de la famille face au drame. Au fond, je pense que cette série, donc Hill House, ce n'est pas tant une histoire de maison hantée, mais plus un drame familial psychologique que je trouve très bien écrit et que je vous conseille. J'ai mis 9 sur 10.
Eh bien, merci.
Et maintenant, Elodie, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, j'ai voulu regarder un film qui était sorti cette année et qui avait été pas mal critiqué. par la critique et j'ai voulu me faire ma propre, mon propre avis.
Critiqué par la critique, mais quel philosophe
magnifique.
Ouais, je sais. Donc c'est Jurassic World, le Renaissance, il est affreux. Voilà, je ne le conseille absolument pas.
Ça annonce la couleur.
Ouais, ouais. Ah, alors, ouais. Je vais être très honnête avec vous. Je l'ai vu avec plusieurs personnes qui ont eu à peu près le même avis. Je trouve que sur le plan, au niveau du cadrage ou quoi que ce soit, c'est très mauvais. Même au niveau du synopsis, c'est quelque chose du déjà vu. On n'a aucun suspense. Ça fait vraiment très film. Je ne sais pas forcément comment vous l'expliquer, mais vous connaissez
pour
déjà la fin.
Pour l'argent, un peu. Les...
Non, ouais, le nouveau
vu.
Hollywood.
Pas le nouvel Hollywood, mais ouais. C'est des films pour Hollywood, quoi.
C'est ça. C'est...
On génère de l'argent, quoi.
C'est ça. Même les effets étaient... pas forcément au rendez-vous. Enfin, ils étaient là, mais peut-être pas forcément comme je l'aurais attendu. Je pense que Steven Spielberg se retourne actuellement en ayant vu ce film.
Ah, force, ami.
Donc, je le conseille pas du tout. J'ai mis un 2 sur 5 parce que ça reste quand même un film avec beaucoup de budget. Donc, au niveau visuel, ça passe. Mais quand vous vous y plongez un tout petit peu, il vaut pas le coup. Et toi, Lina, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien, j'ai revu pour à peu près la 5e fois de ma vie L'île aux fleurs. C'est un court-métrage, 13 minutes, c'est vrai que c'est très très court, mais c'est probablement mon court-métrage préféré. Comment l'expliquer ? C'est un film déjà de Jorge Furtado, c'est un réalisateur brésilien. Donc si vous voulez le terme, le titre en brésilien, c'est Ilha das Flores.
Merci pour la VO.
C'est portugais du coup. Tout part d'une tomate. Une tomate est plantée, récoltée et vendue dans un supermarché. Sauf que celle-ci, elle est pourrie. Et elle finit à la poubelle. On pense que tout s'arrête là, mais non. On suit tout son parcours du début jusqu'à la fin. Elle passe par les déchets, mais aussi par les animaux, ou encore les femmes et les enfants. Ce film est ma définition du sarcasme, qui va constamment insulter l'humanité. Et le réalisateur est très efficace, puisqu'en 13 minutes seulement, il passe par les atrocités du monde, donc l'antisémitisme. Il passe par aussi plein d'inégalités, que ce soit sociales ou économiques. Et j'ai beaucoup aimé, parce que le film est donc très très rythmé, puisque en 13 minutes, c'est compliqué d'aborder des sujets tout en partant d'une tomate de merde. Et c'est vachement... ça prend beaucoup. Donc l'île aux fleurs, c'est un lieu en fait où il y a des pourritures. Je vais pas tout expliquer, mais c'est là où il y a des pourritures et les animaux qui bouffent ces pourritures. Mais on verra que justement, il n'y a pas que les animaux. Et c'est assez intéressant. Je veux pas en dire plus parce que faut vraiment le découvrir de soi-même. Elodie, je sais pas si tu te rappelles, on l'avait vu avec La spécialité l'année dernière.
Je m'en souviens.
Il a été énormément critiqué parce que les gens n'avaient pas compris le sarcasme derrière. Ils pensaient vraiment que c'était antisémite, raciste. Et en fait, non. C'était c'est juste ça. De l'humour noir pour faire comprendre que c'est ça qui s'est passé dans le monde en fait.
Ouais, c'est ça
qui se passe. C'est dommage que c'est pas été compris. Après, voilà, ça, je peux comprendre que ça puisse ne pas plaire. Moi, j'ai tout simplement adoré parce que je me suis aussi marrée, mais un peu le rire jaune.
Ouais, je vois.
Le rire jaune.
J'avais la même réaction que toi. J'avais apprécié, ouais.
Ouais. Donc c'est un film que je conseille vraiment. C'est mon 5 sur 5, mon top 3 Letterboxd.
Ah ouais, car ok.
Donc je conseille vivement.
Eh bien merci les filles et on va passer à la coupure musicale. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day. Die with you. Take
the most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. Day that I'm glad I survived.
Vous êtes de retour sur CFM Radio. Vous écoutez Retour vers le cinéma et tout de suite le sujet d'Elodie qui porte sur
Battle Royale. Donc merci Lina. Aujourd'hui, je vous parle d'un film culte et choc du cinéma japonais qui se nomme Battle Royale. Il est réalisé par Kinji Fukasaku et il est sorti en l'an 2000 au Japon avant d'arriver dans nos salles françaises le 21 novembre 2001, soit un an après. C'est un film qui est adapté du roman de Kutsun Takami, paru en 1999. C'est le dernier film de Fukasaku. C'est un grand réalisateur japonais des années 70, connu pour ses films puissants et super violents et souvent au niveau des thématiques sociales.
Ok.
Donc, Battle Royale, c'est un véritable électrochoc pour le cinéma japonais. C'est un film qui aborde le massacre et l'humour noir. Et ça va s'en suivre d'une tension dramatique, ce qui conclut par une réflexion assez terrifiante sur la jeunesse du Japon. Alors, je vous fais un peu le synopsis pour que vous voyez un peu de quoi ça parle. C'est un film déjà qui est interdit aux moins de 16 ans et qui les vaut. Il se déroule dans un futur assez proche. Ce sont les élèves de la classe B du collège Shirwa... Oh, il va être dur celui-là. En fait, c'est Shirwawa. Ouais, c'est Shirwawa.
Shirwawa.
Okay. C'est un film qui se déroule dans un futur proche. Les élèves de la classe B du collège, pardonnez mon accent, Shirwawa, sont envoyés sur une île déserte par une organisation mystérieuse. Leur ancien professeur Kitano leur annonce qu'ils vont participer à un jeu de massacre. Ils doivent s'entretuer et seul le dernier survivant pourra rentrer chez lui. Chaque adolescent reçoit une arme et de la nourriture et dispose de 3 jours pour survivre. Kitano introduit également 2 nouveaux élèves inquiétants et montre par l'exemple que personne n'échappera aux règles, illustrant ainsi une critique radicale de la société et de l'éducation. Je vais vous parler des répercussions que ce film il a eu dans le monde du cinéma et dans la vie de tous les jours. C'est un jeu de survie, donc ça aborde le thème de la survie et du fait qu'on s'entretue. Battle Royale a popularisé le concept de jeu de survie, où des participants sont contraints de s'entretuer dans un cadre fermé. Et ce concept a directement inspiré des œuvres comme Hunger Games, sorti en 2012 et réalisé par Susan Collins, qui reprend l'idée d'un groupe de jeunes forcés à s'affronter pour survivre avec une critique sociale et politique. Mais également Squid Game, qui est sorti en 2021, un peu plus récent, où la violence et la compétition entre participants servent à dénoncer les inégalités sociales et la cupidité. De plus, ce film a inspiré également des jeux vidéo tels que PUBG ou Fortnite qui représentent le principe du Battle Royale.
Call of Duty aussi ou pas ?
Ouais, en fait, tous les jeux issus du Battle Royale sont un peu fondamentalement inspirés de ce film qui a été assez novateur.
Puis les jeux vidéo comme ça, ils sont beaucoup plus récents, je pense.
Ouais, mais en fait, ils s'inspirent entre eux.
J'adorerais sauter d'un bus.
Wow.
En l'air.
Wow. Genre,
non, ça c'est ça que Fortnite.
Ouais, c'est Fortnite.
Ouais.
Ouais.
Call of Duty, non, tu sors des avions.
Ouais.
C'est plus stylé quand même.
Ouais.
Tu les vois sauter et tout.
Ouais.
J'aime trop.
Oui, c'est pour ça que j'y joue.
Ouais. Mais moi je préfère les bus. Les bus qui n'existent pas. Parce qu'ils...
Allez, tu peux reprendre, Elodie.
On reprend. Donc, d'ailleurs, le terme Battle Royale est directement devenu un genre dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un genre, un sous-genre qu'on peut associer à une catégorie de jeux vidéo. Je vais également vous parler un peu de la critique sociale de ce film, de l'interprétation que j'en fais et que d'autres spectateurs ont pu s'en faire. Je me suis inspirée de critiques et de mon avis personnel. Le film, c'est un peu plus qu'un simple film d'action. Il dénonce la pression sur les jeunes dans la société japonaise, donc l'autorité excessive de l'État et surtout l'isolement des adolescents. Cette dimension sociale, elle a inspiré d'autres films et séries qui utilisent la violence comme outil de réflexion sur la société. De plus, ce film, il a également impacté le cinéma japonais. Battle Royale, il a ouvert la voie à un cinéma japonais beaucoup plus audacieux et radical qui combine le gore, l'humour noir et la critique sociale. En effet, à l'époque, tout ce qui se basait sur le cinéma japonais, c'était assez Est-ce que vous avez un thème pour dire un peu prude?
Prude.
Prude marche? Ok. C'était assez prude, on n'osait pas forcément montrer ou avoir des images assez violentes. Et ce film, il a été pionnier sur ce genre-là. Également, des séries et des films occidentaux font parfois des clins d'œil à Battle Royale. On a par exemple dans certains épisodes de Black Mirror au Ready or Not. On peut avoir des petits clins d'œil. Il y a également des parodies et des hommages qui existent dans l'animation japonaise et les mangas, comme dans Gantz ou Danganronpa.
Ok.
Merci d'acclamer mon accent. Je vais également parler de la réflexion sur au niveau critique. Je vais un peu plus m'y aborder. Le film, il a lancé un débat au niveau mondial sur la représentation de la violence et des adolescents au cinéma. À sa sortie, il a été censuré dans plusieurs pays, mais il a aussi ouvert une discussion sur la manière dont la fiction, elle peut interroger les spectateurs sur notre rapport à la société, à l'autorité et à la jeunesse. Personnellement, je pense que ça reste un film qui est avant-gardiste, qui a ouvert la voie à de nombreux récits de jeux de survie, de films, et ça a été quand même un film assez novateur, qui est devenu culte aujourd'hui. Pour son époque, c'est une œuvre qui reste poignante, choquante et d'une rare intensité, si on prend en compte le contexte. Même si certains pourraient le trouver daté aujourd'hui, on en reparlera un peu plus tard, il reste en réalité le point de départ d'un genre entier. Avec son mélange de gore et de critique sociale, mélangeant la tension dramatique, Battle Royale, il incarne parfaitement le cinéma japonais, marquant, radical, et qui a été source d'inspiration.
Ouais, mais je suis en train de me dire, le titre, en fait, a entraîné le fait que les jeux vidéo aient repris
exactement
le terme. Mais du coup, est-ce que ça donnerait pas un peu moins de crédibilité au titre? Parce que quand j'entends Battle Royale, pour moi, c'est « Oh putain, ça va être un film con sur des jeux vidéo ou quelque chose comme ça.
Alors,
est-ce que tu penses que ça a manqué un petit peu de crédibilité alors, du coup, avec le temps?
Ouais, avec le temps, je pense qu'on peut assez décrédibiliser ce genre de film. Personnellement, quand je l'ai vu très récemment, donc j'avais également cette idée-là d'un battle royale, de quelque chose de déjà vu. Dans le contexte, évidemment, ils ne pouvaient pas savoir, mais j'arrive à comprendre aujourd'hui que certaines personnes peuvent trouver ce film déjà daté et un peu.
Je trouve qu'il a mal vieilli, hein, ouais. Vraiment.
Au niveau des images, tu veux dire?
Le sang. Ouais. Vraiment, la couleur du sang, tu vois que c'est du rouge trop fluo, c'est pas pour nous.
Je comprends, c'est vrai que les effets spéciaux sont assez datés. On remarque quand même l'ancienneté du film et surtout les moyens qui étaient beaucoup plus bas.
Et pourtant, il est pas si vieux. Désolé de te contredire, je crois
2000.
Que 2000.
Mais ouais, si je te l'ai dit, 2000.
2000. Et on a eu quoi? On a eu Matrix, les années 90, fin des années 90. Je suis désolé, mais c'est pas le même niveau d'effets spéciaux.
Ouais, après, je pense que c'est une idée aussi du contexte, même au niveau géographique. Le Japon, c'était un pays qui était en pleine construction au niveau politique à ce moment-là. Le développement n'était pas le même qu'au niveau des États-Unis. Mais j'arrive à comprendre que, du coup, à regarder, surtout maintenant, actuellement, en 2025, ça reste assez dur et très peu crédible. Mais je trouve qu'en tant que spectateur, quand on prend le temps de remettre tout ça en contexte, ça reste un film qui est passable. Même si j'arrive à comprendre qu'évidemment les effets spéciaux sont pas très réussis. Ainsi, donc Battle Royale, ce n'est pas qu'un film violent, ça reste une réflexion sur la société et notre rapport à la jeunesse. Il pose une question qu'on pourrait se poser, et vous, jusqu'où iriez-vous pour survivre dans un jeu comme celui-ci? Et c'est avec cette jolie problématique qu'on va vous laisser. On vous dit à la semaine prochaine.
Et rappelez-vous qu'on est là tous les mercredis à 19h et le samedi à 14h. Bisous à tous.
Au revoir.
Ciao.